France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le vaginisme ou la dyspareunie sont des termes encore méconnus d'une partie du grand public qui décrivent pourtant des douleurs répandues subies par certaines femmes avant, pendant ou après la pénétration. Or, l'enquête de l'INSERM qui vient de paraître le montre bien. En une vingtaine d'années, la proportion de femmes qui déclarent des dysfonctions sexuelles est en augmentation. Mettre des noms sur des douleurs, les objectiver, les traiter, oser dire non quand ça fait mal, ce sont des bouleversements particulièrement significatifs dont parle notre épisode aujourd'hui. Autant les troubles érectiles, les angoisses et les pannes, c'est pas comme si on les découvrait. Mais les femmes qui souffrent à chaque rapport, avant, pendant ou après la pénétration, et ce qu'on peut faire pour y remédier, ce sont des histoires peu entendues qu'on vous propose tout de suite d'écouter. Je précise pour celles ou ceux qui s'en étonneraient que si cette série aborde un grand nombre de thèmes liés à la sexualité féminine plutôt que masculine, c'est surtout parce que la plupart des grands bouleversements concernent les femmes, aussi parce que ce sont des femmes qui ont conçu ce podcast et des femmes qui ont conduit l'enquête de l'INSERM. Oser dire quand on a mal, tout de suite deux histoires bouleversantes par Élodie Font et Pauline Verdusier.
Je m'appelle Alix, j'ai 27 ans, j'habite à Bruxelles et je suis autrice de bande dessinée. La rencontre avec mon compagnon, on est tous les deux étudiants dans une école d'art en section bande dessinée et on fait partie du même groupe d'amis, donc on se fréquente beaucoup. Et moi, au départ, c'est un gars, je me souviens, la première fois que je l'ai vu entrer dans la classe, je me suis dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Et puis ensuite, je me suis dit « Il a une tête de français !» Et je sens que c'est réciproque, qu'on s'attire. Il y a un petit jeu de flirt et tout, et on a fini par coucher ensemble. Et en fait, chemin faisant, le fait est qu'on s'est retrouvés à être très amoureux et à former un couple. Au début, dans ces premiers mois-là, notre sexualité, elle est très épanouie. Elle est très commune, on a des rapports qui sont fréquents, qui sont joyeux, qui sont consentis, qui sont... Par contre, moi, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que je ne jouis jamais avec mes partenaires. Si je veux jouir, je me masturbe. Ça vient tout seul en quelques minutes, c'est vraiment pas sorcier. Il n'y a aucun problème physiologique de ce côté-là. Donc, voilà, je me dis qu'avec mes partenaires, j'aime le moment d'échange, d'intimité. Je prends beaucoup de plaisir aussi d'autres façons, sans que ça aille jusqu'à l'orgasme. Voilà, à part ça, on avait une sexualité dont je me satisfaisais. Ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on est ensemble, et en fait, nos études de bande dessinée se terminent. On déménage, on pourra emménager à Bruxelles, qui est une ville qui propose plus d'opportunités pour les artistes, et moi, je voulais poursuivre des études. C'est un peu un crève-cœur de quitter nos habitudes qu'on avait à Liège. Et en fait, en 3 mois, je suis passée de jeune étudiante en art, à métro boulot dodo, je bosse 80 heures par semaine. Et waouh, j'avais 21 ans. Je me sens perdue, en fait. Tout ça, mis l'un dans l'autre, cette énergie, le temps que je passe à bosser, ça affecte évidemment ma libido, la fréquence de nos rapports. Et puis, un jour, lors d'une pénétration, ça pique. Ça pique, en fait. Comme si on utilisait du papier de verre, quoi, un peu. Mais au début, ça arrive sur la fin, voilà, au bout de plusieurs minutes. Donc... je n'y fais pas attention. Et en fait, ça se répète à chaque fois. Ça pique à la fin. Ça pique de plus en plus tôt. Ça pique de plus en plus fort. Et moi, je ne dis rien. Je serre les dents. Je me dis juste « Oh, vivement qu'il jouisse, quoi !» Mais je ne lui dis pas. Et je ne me sens pas autorisée à dire ça. Je garde ça pour moi. Et puis, de « ça pique », ça devient « ça brûle ». Et de « ça brûle », ça devient, en fait, c'est complètement insoutenable. Et dès la première seconde, ça me fait très mal. Je dois cacher ma tête dans l'oreiller. J'essaie de me mettre dans des positions pour qu'il ne voit pas mon visage à aucun moment parce que ça trahirait la douleur que je ressens. Enfin, moi-même, j'étais dans une sorte de déni de me dire « n'en parle pas, c'est toi que ça regarde, ça va passer ». Et je me le répétais presque comme une prière, c'était pas « ça va passer », c'est « ça va passer, Enfin, je sais pas. Et puis au bout d'un an, j'ai fini par retrouver un équilibre, disons, psychologique. Le travail se passe très bien. On est super bien. Et à ce moment-là, moi, on atteint un degré de douleur qui devient vraiment insoutenable, où à la fin, ça m'arrache une larme, quoi. Je vais aux toilettes et je vois que je saignote un petit peu, quoi. Et donc là, je sais pas, c'est comme une claque. Je me dis, mais c'est pas possible. Réveille-toi, bon sang. Et là, c'est un peu le trop-plein. Je vais le trouver. Je lui dis, en fait, tu le sais pas, mais je crève de mal. Je crève de mal depuis un an. Je n'ai plus jamais envie. Et c'est horrible pour moi qu'on ait des rapports parce que je crève de mal. Et là, lui, il est mais estomaqué. Il tombe des nues. Il n'avait pas du tout remarqué. Et il est horrifié parce que ça implique comme révélation. De me dire je me suis forcée plein de fois. Il se met à pleurer. Et moi aussi, on pleure tous les deux, parce qu'à partir de ce jour-là où j'ai mis des mots, de reconnaître que j'avais un problème, c'était aussi reconnaître que là, maintenant, allait s'amorcer un parcours que je le savais que ce serait difficile. Et la première personne que je décide d'aller voir, c'est une gynécologue. Je me sens super honteuse d'être là, je me sens super démunie. Je lui explique les symptômes en bégayant tellement je pleure. Et donc, je lui explique, elle m'ausculte, spéculum, tout le bazar, et elle me dit « vous avez d'importantes lésions ». Et alors ça me déchire. Je me dis « jusqu'où t'es allée, quoi ?» Et elle m'explique que les lésions qu'elle voit, donc des fissures à l'entrée du vagin, sont pas du tout la cause probablement de ce que je décris, mais bien une conséquence du fait que j'ai forcé. Elle fait un prélèvement parce qu'elle m'explique que selon elle, c'est probablement un champignon, une infection qui provoque des picotements et des douleurs. Plus tard, elle m'appelle pour me dire que les résultats n'étaient pas très concluants, oui, j'avais un tout petit peu trop de telles bactéries, bon voilà, mettez des ovules. Et donc je me retrouve à nouveau à la case départ et donc je décide de me tourner vers une psychologue. Je commence à lui expliquer mon cas, quoi. Et elle, la première chose qu'elle me dit, c'est « il faut que vous arrêtiez d'avoir des rapports, pour commencer, c'est la première chose ». Je suis à la fois immensément soulagée, évidemment, même si dans les faits, depuis que je l'avais annoncé à mon compagnon, on n'en avait plus vraiment, hein, parce que lui non plus ne voulait pas dans ces conditions-là. Et en même temps, annoncer à son compagnon, avec qui on est en couple depuis à peine quelques années, qu'on a 22 ans et quelques, on ne va plus avoir de rapports, à un gars qui, lui, par contre, a une libido florissante, c'est un euphémisme, c'est « waouh, je me sens comme une ovni, j'ai l'impression de le castrer ». C'est bizarre parce que ça perturbe grandement nos rapports intimes, juste physiques, quoi. Même le fait qu'il me prenne dans ses bras, je suis toujours là « pourvu que ça lui donne pas envie oh ». Ou si on s'embrasse un peu trop fort, non, je mets tout de suite fin à tout ce genre de contact. Il comprend bien, ok, on ne peut pas avoir de rapport pénétratif, mais il me disait, j'aimerais quand même juste qu'on se prenne dans les bras, qu'on se touche, qu'on s'embrasse. Moi, je fondais en larmes, je pleurais, je ne pouvais pas soutenir ce genre de conversation. Et donc, je fais quelques séances avec cette psy qui est jeune, et assez vite, je m'aperçois que la sexologie, ça la dépasse un peu. Je sens qu'elle tâtonne autant que moi, et donc j'arrête de la voir parce que je n'ai pas le feeling avec elle. À nouveau, plusieurs mois passent, et là, je me dis, je dois encore creuser le psychologique, mais cette fois-ci, je vais m'adresser à une sexologue. Et donc, je vais chez une sexologue qui s'avère être une dame d'un certain âge, elle avait bien plus de 65 ans, je pense. Et puis, elle en vient à me parler des dilatateurs vaginaux. Ça ressemble à des godes, quoi, mais c'est fait pour progressivement du plus petit qui fait genre... même pas un centimètre de diamètre jusqu'à le plus grand qui a les proportions d'un pénis moyen, réouvrir le passage de son vagin. Je suis là, mais non, en fait, je vais pas commencer à me fourrer des trucs dans la chatte pour ouvrir le passage, mais là, on est malade, quoi. Et puis quoi, je vais me mettre un entonnoir aussi, enfin, jusqu'où on va pour être pénétré ? Parce qu'en vérité, moi, personnellement, je m'en foutais. Moi, on m'aurait dit à ce moment-là, la sexualité, ça n'existe pas. Oh là là, mais quel soulagement, mais génial en fait, trop bien. J'arrête de voir cette sexologue, m'étant aperçue que son approche de la sexologie ne me correspond pas du tout. Je me mets à en parler à une amie, et je lui avoue en fait tout ça. À ce moment-là, ça fait déjà bien 2 ans et demi que les symptômes sont apparus. Et c'est elle, en fait, qui me dit ce mot, vaginisme. Et je rentre chez moi, je le google, et là, je tombe de ma chaise, quoi. C'est un soulagement énorme de sortir de l'errance médicale. Et là, je découvre qu'à Bruxelles, à un hôpital public bien connu, ils ont une clinique du périnée. Et voilà, je me retrouve là. J'arrive chez cette gynécologue qui m'accueille très gentiment. Et donc là, elle m'explique que voilà, le vaginisme, ça apparaît souvent en réaction à d'autres pathologies parce que le corps cherche à se protéger de ce qui le blesse, puisque le vaginisme, c'est une contraction complètement involontaire du périnée. Mais on va vous ausculter pour vous déceler s'il n'y a pas une autre pathologie derrière qui déclenche le vaginisme. Et vous allez être suivi par toute notre équipe qui est pluridisciplinaire. Moi, je suis la gynécologue, je serai votre référente. Et je rentre dans ce parcours-là. Et une fois par semaine, à vélo, sur mon temps de midi, sans le dire à personne, à nouveau, je vais à la clinique du périnée, toute seule, faire mes séances de kiné périnéale. Grâce à tout ce suivi-là, le corps guérit, je n'ai plus mal. Et ça, déjà, c'est fou. Mais par contre, je n'ai pas du tout de désir. Mon rapport à la sexualité est brisé, ma libido est inexistante. Mon compagnon, il est extrêmement dans mon esprit associé à toute cette période-là, à toute la douleur que j'ai pu ressentir. La sexualité est désormais dans mon cerveau associée à douleur, déplaisir, se forcer, etc. Et c'est surtout à ce niveau-là que, désormais, contrairement à avant où j'étais très dans le déni, là ça me fait souffrir, là ça me fait de la peine. Je sens que ça me manque, que ça a fait partie de ma vie auparavant et j'aimerais que ça le fasse encore. Et donc, je suis retournée voir une autre sexologue. Et avec cette sexologue-là, cette thérapeute, on a beaucoup, beaucoup exploré le pourquoi. Comment s'est construite ma sexualité? Qu'est-ce qui l'a jalonnée? Comment et pourquoi j'en suis arrivée là? Et ça a été une démarche très longue. Ça s'étale sur des mois, presque des années même. Elle m'a recommandé aussi à une psy qui fait de l'EMDR. Donc c'est une technique de psychologie. Et ça m'a permis d'explorer des choses très profondément enfouies que je n'avais jamais eu le courage de regarder en face. C'est pas des choses que j'avais oubliées, mais c'est des choses qui m'étaient, comment dire, impossibles de reconnaître. Je me disais, ça, c'est des faux souvenirs. Et donc de me confronter à ces souvenirs très traumatiques a été un moment qui m'a mis dans un état de très grande vulnérabilité et en même temps d'une sorte de rage et de grande force où je me suis dit « Putain, mais jusqu'où me poursuivront ces événements qui me sont arrivés sans que j'en sois responsable ?» Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Non, mais... Enfin, la colère, c'est bien, mais... Ma revanche, elle aura le goût de la joie. » On raconte souvent des histoires d'enfants victimes de violences sexuelles qui s'en remettent jamais. Et en fait, le fait est que je m'en suis remis. Et de savourer ça, de le célébrer, pour moi, c'est vraiment la plus belle revanche du monde. Et ce que ça a entraîné derrière, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, pour me réapproprier mon corps et ma sexualité surtout, je sentais que j'arriverais pas à le faire avec mon compagnon. Et donc, j'ai commencé à penser beaucoup au couple libre. Parce que toute cette culpabilité que je ressentais par rapport à mon compagnon, elle venait aussi du fait que j'avais l'impression d'être la seule personne, enfin de facto, j'étais la seule personne à pouvoir le satisfaire sexuellement puisque j'étais sa compagne. Cette responsabilité était trop grande pour moi. Et voilà, j'ai commencé à lui présenter cette idée de couple libre. Ça faisait donc 4 ans que les symptômes étaient apparus. Et lui a été extrêmement réticent. Et donc, on a eu plein de conversations, et puis au bout de plusieurs semaines, lui est revenu en disant, écoute, j'ai bien réfléchi, je pense que t'as raison, faisons un essai. On va établir des règles qui nous rassuraient. Dans ce cadre-là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un coup d'un soir, quoi. Alors, spoiler alert, c'était pas du tout le meilleur coup de ma vie, évidemment. Mais par contre, j'avais pas eu mal. Et ça, je suis sortie de chez lui en claquant la porte, je dansais dans la rue, quoi. J'étais là, youpi, en fait. Je suis guérie. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à beaucoup explorer avec différents partenaires. Et petit à petit, ça m'a fait me rendre compte que le sexe était à nouveau chouette. Et ça m'a fait revenir aussi vers mon compagnon et on a pu recommencer progressivement à avoir des rapports. Ça a pris du temps, hein, franchement, ça a pris du temps et ça veut pas dire que tout est rose tout le temps, mais ça m'a permis de faire la part des choses et de reconstruire la confiance en mon corps, la confiance en ma sexualité. Et voilà, et lui de son côté a aussi eu des partenaires où il a pu lui aussi pouvoir s'explorer et reprendre du plaisir et kiffer en fait. Ça fait 2 ans en fait qu'on a ouvert notre couple. On est toujours dans cette configuration et on est toujours aussi fou amoureux. Et l'avenir est avec lui, ça, c'est ma conviction.
Je m'appelle Maxine, j'ai 31 ans et je vis en Suisse. Avant février 2024, je travaillais comme chargée de projet pour une ville en Suisse. Je suis en couple depuis 5 ans. Je me disais que j'étais contente, j'avais un CDI, j'avais un peu la vie que je voulais, enfin je croyais. Mais au fond de moi, j'avais un peu l'impression de courir après quelque chose. Mais je savais pas vraiment quoi. Au niveau de ma sexualité, c'était... J'ai pas mal de libido. Mon copain aussi. Et c'était des moments fusionnels, d'amour. J'y apportais quand même pas mal d'importance. Et on était toujours très alignés à ce niveau-là. On avait une sexualité, je dirais, plutôt traditionnelle, mais qui était bien. C'est toujours des bons moments de complicité. En janvier 2024, on avait prévu des vacances en Malaisie. Donc quand on était là-bas, c'était vraiment incroyable. Il y a eu un moment où on est parti en fait de Kuala pour visiter une île. Et j'ai commencé à sentir comme si j'avais une infection urinaire. C'est des sensations que je connaissais parce que à l'époque j'en faisais beaucoup. Donc heureusement, on m'a donné des antibiotiques qui m'ont permis en fait de tenir les 10 jours qui restaient et de guérir cette infection urinaire. Quand on est revenu en Suisse, ma tête elle était encore en Malaisie. Je crois que j'avais pas très envie de revenir en Suisse, parce que je me rendais compte que la réalité allait recommencer. Et je me rendais surtout compte que c'était pas forcément une réalité que j'appréciais. Et mi-février, j'avais repris le travail. Il y a eu un événement au travail qui m'a beaucoup stressée. Et en fait, là, j'ai eu des douleurs vraiment horribles au niveau de ma vessie. Mais comme si on mettait un chalumeau sur ma vessie et mon urètre directement. Ben, tout de suite, je suis allée aux urgences. Je pensais que j'avais une nouvelle infection urinaire. Et là, ils m'ont dit, non, vous savez rien, il n'y a plus de bactéries dans vos urines. Et en fait, c'est là que tout a commencé, en fait. Donc là, les mois y passent, février, mars. On me dit que j'ai rien du tout. Et pourtant, j'ai tellement mal chaque jour. Au travail, c'était compliqué. Je m'enfermais dans des salles pour pleurer la journée. J'étais épuisée parce que la nuit, je dormais pas, parce que je devais tout le temps aller aux toilettes, parce que ça me brûlait. Je savais plus comment me tenir, ni debout, ni assise, rien qui fonctionnait. Et surtout, on me disait que j'avais rien. Donc, tout s'est vraiment dégradé et j'ai dû me mettre à l'arrêt. Ma généraliste, elle me disait que je devais juste me reposer. Et moi, j'ai insisté pour aller voir un urologue. L'urologue m'a fait une cystoscopie et en fait, il me disait que tout allait très très bien. Et il m'a dit « changer de travail ». Et j'étais là, ça m'aidait pas en fait. Là, on est fin mai, début juin. Donc depuis le mois de février, je souffre. Et par rapport à mon copain, entre nous, c'était compliqué. Parce que il me voyait couché dans le canapé toute la journée, en train de pleurer, en train de perdre du poids. Je tenais plus debout, je m'effondrais devant mon conjoint. Et lui, il était démuni. On savait plus quoi faire et je réfléchissais qu'est-ce qui pouvait me soulager, mais il n'y avait rien qui pouvait me soulager. On essayait quand même quelques calmants, des choses pour apaiser la douleur, il n'y a rien qui fonctionnait. Et en fait, moi j'avais très peur de le perdre. J'avais vraiment cette impression de plus remplir ma mission de femme au sein du couple, quoi. C'était... Je me disais qu'à tout moment, il pouvait rencontrer une autre femme qui était en bonne santé, qui rigolait, qui était capable de faire l'amour. Et j'avais peur de le perdre. Et j'avais quand même des fois des tout petits moments de répit. Je me disais, c'est le moment, faut qu'on fasse l'amour. Donc des fois, j'allais le chercher en lui disant, là j'ai pas mal, vas-y, on y va, on essaye. On a eu 2-3 fois où ça allait, où des fois je serrais aussi un peu les dents. Mais lui, tout de suite, il le sentait, en fait. Et il me disait de ne pas me mettre la pression, que ça arrivait dans les couples d'avoir des périodes où on ne fait pas l'amour et c'est pas grave, comme notre couple, il ne tient pas à ça, en fait. Et qu'il fallait vraiment que je prenne soin de moi en premier. Et ça m'a beaucoup aidée aussi à lâcher prise, en fait. Un jour, j'ai rencontré une médecin qui m'a dit qu'elle comprenait et qu'en fait, elle allait prendre le temps avec moi et qu'elle allait mettre en place une petite équipe qui allait pouvoir prendre soin de moi. Donc, on m'a diagnostiqué le syndrome douloureux pelvien chronique à départ vésical. Ça veut un peu tout et rien dire, mais ça voulait dire qu'il y avait quelque chose. Mais surtout, je découvre qu'on peut travailler là-dessus et c'est mon quotidien aujourd'hui, donc je travaille plus. Et mon quotidien, c'est vraiment ces traitements que j'ai chaque semaine. Donc que ce soit des injections dans la vessie, injections dans le ganglion impar qui est au niveau du sacrum. Ce qui est difficile, en fait, pour moi, c'est que je me mets tout le temps à nu. Souvent, je me fais ausculter, on fait de la physiothérapie interne, de l'ostéo interne, les injections de tous les côtés. Et ça, franchement, pour le corps, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai vraiment appris à me dissocier de mon corps dans ces moments-là. Devant ma psychologue, mon psychiatre, je dois me mettre à nu et tout expliquer ce qui se passe. On se rend compte que ces douleurs-là, elles proviennent en effet... L'élément déclencheur a été l'infection urinaire, mais en fait, ça provient surtout de stress post-traumatique, que ce soit lié au travail, que ce soit lié à l'enfance, et c'est pas toujours évident, en fait. Ce qui est intéressant dans ces quelques mois, c'est que j'ai appris aussi à me prioriser. Par exemple, j'ai décidé que pour la première fois, j'allais partir toute seule un week-end, chose que j'avais jamais fait en 30 ans. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des douleurs qui ont diminué, en fait. Il y a une nuit, j'étais tellement euphorique que j'ai pas dormi, tellement j'étais heureuse. Donc dès que je suis revenue à la maison, après ce week-end à Lyon, mes douleurs ont recommencé. Donc je me suis dit, faut que je reparte quelque part, donc je suis partie... J'ai pu marcher même une fois 20 km dans une journée en n'ayant quasiment pas de douleur. C'était incroyable. Et tous ces moments-là m'ont donné espoir. Aujourd'hui, quand on essaye de faire l'amour, Bon, je suis toujours très contente si ça dure pas non plus des heures, mais j'arrive à retrouver des moments un peu comme avant. Je le fais plus parce que j'ai peur en fait de le perdre. Je le fais parce que j'en ai envie. J'ose aussi maintenant plus dire « vas-y moins fort » ou « vas-y comme ça » ou « ah non, aujourd'hui j'aimerais pas ça » ou « oui, là c'est bien » et sans que ce soit en fait bizarre dans le rapport sexuel. Et je pense que lui, il attendait que ça, en fait, aussi, de que moi, je lui dise vraiment ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Et des fois, je pensais même avant que c'était normal d'avoir un peu mal, alors que non. Je lui avais dit qu'on pouvait essayer d'avoir des rapports sexuels sans pénétration. On a essayé un petit peu, mais ça restait très traditionnel. Je ne me suis pas trop penchée là-dessus, honnêtement. C'était déjà très très chouette de pouvoir faire l'amour. Pour moi, c'était quand même une charge mentale d'aller creuser, d'aller voir comment on pouvait faire différemment. En fait, c'est juste que la sexualité, c'est devenu presque secondaire, en fait, pour moi aujourd'hui. J'ai aussi réussi un petit peu à désacraliser les rapports sexuels dans le couple. Puis je pense qu'avant, je vivais aussi dans ce truc... faut avoir des rapports sexuels, en tout cas deux fois par semaine. Enfin, je sais même pas d'où viennent ces chiffres. Avec mes copines, on discute beaucoup que pour elles, ça leur fait peur quand elles font pas l'amour pendant trois semaines, que c'est pas normal, que ça veut dire que leur couple va mal. Ben, c'est fou de voir comme c'est ancré. Et juste, notre couple, il peut très très bien fonctionner et même encore être plus fort et sans vivre ces moments-là. Donc, je m'inquiète pas trop non plus de tout ça en ce moment. De m'être enlevé cette charge mentale, ça m'a beaucoup aidé aussi.
Ela é minha menina. Dela. Ela é o meu amor.
C'était Sexualité, oser dire quand ça fait mal, 11e épisode de notre série Dernière Nouvelle du Sexe. Un reportage signé Élodie Font, Pauline Verdusier, réalisé par Somaya Dabèche avec un coup de main de June Loper. Merci à Alix et Maxine, à Armel, Andro, à toute l'équipe de l'enquête Contexte des sexualités en France, à Nathalie Bajos en particulier aussi. Ce podcast a été conçu en partenariat avec Libération. Notre attaché de production, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien. Check the money.
Amanheceu um lindo dia. Cheira.